Livre 1, chapitre 1, grand 2. Une autre idée par laquelle on a souvent essayé de définir la religion est celle de divinité. La religion, dit Albert Réville, est la détermination de la vie humaine par le sentiment d'un lien unissant l'esprit humain à l'esprit mystérieux, dont il reconnaît la domination sur le monde et sur lui-même, et auquel il aime à se sentir uni. Il est vrai que, si l'on entend le mot de divinité dans un sens précis et étroit, la définition laisse en dehors d'elle une multitude de faits manifestement religieux. Les âmes des morts, les esprits de toute espèce et de tout rang, dont l'imagination religieuse de tant de peuples divers a peuplé la nature, sont toujours l'objet de rites et parfois même d'un culte régulier, et pourtant, ce ne sont pas des dieux au sens propre du mot. Mais pour que la définition les comprenne, il suffit de substituer au mot de Dieu, celui plus compréhensif, d'être spirituel. C'est ce qu'a fait Taylor. Le premier point essentiel quand il s'agit d'étudier systématiquement les religions des races inférieures, c'est, dit-il, de définir et de préciser ce qu'on entend par religion. Si l'on tient à faire entendre par ce mot la croyance à une divinité suprême, un certain nombre de tribus se trouveront exclues du monde religieux. Mais cette définition trop étroite a le défaut d'identifier la religion avec quelques-uns de ses développements particuliers. Mieux vaut, ce semble, poser simplement comme définition minimum de la religion la croyance en des êtres spirituels. Par être spirituel, il faut entendre des sujets conscients, doués de pouvoirs supérieurs à ceux que possède le commun des hommes. Cette qualification convient donc aux âmes des morts, aux génies, aux démons aussi bien qu'aux divinités proprement dites. Il importe de noter tout de suite la conception particulière de la religion qui est impliquée dans cette définition. Le seul commerce que nous puissions entretenir avec des êtres de cette sorte se trouve déterminé par la nature qui leur est attribuée. Ce sont des êtres conscients. Nous ne pouvons donc agir sur eux que comme on agit sur des consciences en général, c'est-à-dire par des procédés psychologiques, en tâchant de les convaincre ou de les émouvoir, soit à l'aide de paroles, invocations ou prières, soit par des offrandes et des sacrifices. Et puisque la religion aurait pour objet de régler nos rapports avec ces êtres spéciaux, il ne pourrait y avoir religion que là où il y a prières, sacrifices, rites propitiatoires, etc. On aurait ainsi un critère très simple qui permettrait de distinguer ce qui est religieux de ce qui ne l'est pas. C'est à ce critère que se réfère systématiquement Prader et avec lui plusieurs ethnographes. Mais si évidente que puisse paraître cette définition par suite d'habitudes d'esprit que nous devons à notre éducation religieuse, il y a nombre de faits auxquels elle n'est pas applicable et qui ressortissent pourtant au domaine de la religion. En premier lieu, il existe de grandes religions d'où l'idée de Dieu et d'esprit est absente, ou tout au moins, elle ne joue qu'un rôle secondaire et effacé. C'est le cas du bouddhisme. Le bouddhisme, dit Burnouf, se place en opposition au brahmanisme, comme une morale sans Dieu et un athéisme sans nature. Il ne reconnaît point de Dieu dont l'homme dépende, dit Barthes. Sa doctrine est absolument athée. Et M. Oldenburg, de son côté, l'appelle « une religion sans Dieu ». En effet, tout l'essentiel du bouddhisme tient dans quatre propositions que les fidèles appellent les quatre nobles vérités. La première pose l'existence de la douleur comme liée au perpétuel écoulement des choses. La seconde montre dans le désir la cause de la douleur. La troisième fait de la suppression du désir le seul moyen de supprimer la douleur. La quatrième énumère les trois étapes par lesquelles il faut passer pour parvenir à cette suppression. C'est la droiture, la méditation, enfin la sagesse, la pleine possession de la doctrine. Ces trois étapes traversées, on arrive au terme du chemin, à la délivrance, au salut par le nirvana. Or, dans aucun de ces principes, il n'est question de divinité. Le bouddhiste ne se préoccupe pas de savoir d'où vient ce monde du devenir où il vit et où il souffre. Il le prend comme un fait, et tout son effort est de s'en évader. D'un autre côté, pour cette œuvre de salut, il ne peut compter que sur lui-même. Il n'a aucun dieu à remercier, de même que, dans le combat, il n'en appelle aucun à son aide. Au lieu de prier, au sens usuel du mot, au lieu de se tourner vers un être supérieur et d'implorer son assistance, il se replie sur lui-même et il médite. Ce n'est pas à dire qu'il nie de front l'existence d'êtres appelés Indra, Agni, Varuna, mais il estime qu'il ne leur doit rien et qu'il n'a rien à faire avec eux, car leur pouvoir ne peut s'étendre que sur les biens de ce monde, qui, pour lui, sont sans valeur. Il est donc athée en ce sens qu'il se désintéresse de la question de savoir s'il y a ou non des dieux. D'ailleurs, alors même qu'il y en aurait et de quelque puissance qu'ils fussent armés, le saint, le délivré, s'estime supérieur à eux, car ce qui fait la dignité des êtres, ce n'est pas l'étendue de l'action qu'ils exercent sur les choses, c'est exclusivement le degré de leur avancement sur le chemin du salut. Il est vrai que le Bouddha, au moins dans certaines des divisions de l'Église bouddhique, a fini par être considéré comme une sorte de dieu. Il a ses temples, il est devenu l'objet d'un culte qui, d'ailleurs, est très simple, car il se réduit essentiellement à l'offrande de quelques fleurs et à l'adoration de reliques ou d'images consacrées. Ce n'est guère autre chose qu'un culte du souvenir. Mais d'abord, cette divinisation du Bouddha, à supposer que l'expression soit exacte, est particulière à ce qu'on a appelé le bouddhisme septentrional. Les bouddhistes du sud, dit Kern, et les moins avancés parmi les bouddhistes du nord, on peut l'affirmer d'après les données aujourd'hui connues, parlent du fondateur de leur doctrine comme s'il était un homme. Sans doute, ils attribuent au Bouddha des pouvoirs extraordinaires, supérieurs à ceux que possède le commun des mortels. Mais c'était une croyance très ancienne dans l'Inde, et d'ailleurs très générale dans une multitude de religions diverses, qu'un grand saint est doué de vertus exceptionnelles. Et, cependant, un saint n'est pas un dieu, non plus qu'un prêtre ou qu'un magicien, en dépit des facultés surhumaines qui leur sont souvent attribuées. D'un autre côté, suivant les savants les plus autorisés, cette sorte de théisme et la mythologie complexe qui l'accompagne d'ordinaire ne serait qu'une forme dérivée et déviée du bouddhisme. Bouddha n'aurait d'abord été considéré que comme le plus sage des hommes. La conception d'un Bouddha qui ne serait pas un homme parvenu au plus haut degré de sainteté est, dit Bournouf, hors du cercle des idées qui constituent le fond même des sutras simples. Et, ajoute ailleurs le même auteur, son humanité est restée un fait si incontestablement reconnu de tous, que les légendaires auxquels coûtaient si peu les miracles n'ont pas même eu la pensée d'en faire un dieu après sa mort. Aussi est-il permis de se demander s'il est jamais parvenu à se dépouiller complètement de ce caractère humain et si l'on est en droit de l'assimiler complètement à un dieu. En tout cas, c'est un dieu d'une nature très particulière et dont le rôle ne ressemble nullement à celui des autres personnalités divines. Car un dieu, c'est avant tout un être vivant avec lequel l'homme doit compter et sur lequel il peut compter. Or, le Bouddha est mort, il est entré dans le nirvana, il ne peut plus rien sur la marche des événements humains. Enfin, et quoi qu'on pense de la divinité du Bouddha, il reste que c'est une conception tout à fait extérieure à ce qu'il y a de vraiment essentiel dans le bouddhisme. Le bouddhisme, en effet, consiste avant tout dans la notion du salut, et le salut suppose uniquement que l'on connaît la bonne doctrine et qu'on la pratique. Sans doute, elle n'aurait pu être connue si le Bouddha n'était venu la révéler, mais une fois que cette révélation fut faite, l'œuvre du Bouddha était accomplie. À partir de ce moment, il cessa d'être un facteur nécessaire de la vie religieuse. La pratique des quatre vérités saintes serait possible alors même que le souvenir de celui qui les a fait connaître se serait effacé des mémoires. Il en est tout autrement du christianisme, qui, sans l'idée toujours présente et le culte toujours pratiqué du Christ, est inconcevable. Car c'est par le Christ toujours vivant et chaque jour immolé que la communauté des fidèles continue à communiquer avec la source suprême de la vie spirituelle. Tout ce qui précède s'applique également à une autre grande religion de l'Inde, au jaïnisme. D'ailleurs, les deux doctrines ont sensiblement la même conception du monde et de la vie. Comme les bouddhistes, dit M. Barthes, les jaïnistes sont athées. Ils n'admettent pas de créateur. Pour eux, le monde est éternel et ils nient explicitement qu'il puisse y avoir un être parfait de toute éternité. L'Ujina est devenu parfait, mais il ne l'était pas de tout temps. Tout comme les bouddhistes du Nord, les jaïnistes, ou du moins certains d'entre eux, sont néanmoins revenus à une sorte de déisme. Dans les inscriptions du Dekan, il est parlé d'un Jinapati, sorte de Jina suprême, qui est appelé le premier créateur. Mais un tel langage, dit le même auteur, est en contradiction avec les déclarations les plus explicites de leurs écrivains les plus autorisés. Si, d'ailleurs, cette indifférence pour le divin est à ce point développée dans le bouddhisme et le jaïnisme, c'est qu'elle était déjà en germe dans le brahmanisme, d'où l'une et l'autre religion sont dérivées. Au moins sous certaines de ces formes, la spéculation brahmanique aboutissait à une explication franchement matérialiste et athée de l'univers. Avec le temps, les multiples divinités que les peuples de l'Inde avaient tout d'abord appris à adorer étaient venues comme se fondre en une sorte de principe un, impersonnel et abstrait, essence de tout ce qui existe. Cette réalité suprême, qui n'a plus rien d'une personnalité divine, l'homme la contient en lui, ou plutôt il ne fait qu'un avec elle, puisqu'il n'existe rien en dehors d'elle. Pour la trouver et s'unir à elle, il n'a donc pas à chercher hors de lui-même quelque appui extérieur, il suffit qu'il se concentre sur soi et qu'il médite. Quand, dit Oldenburg, le bouddhisme s'engage dans cette grande entreprise d'imaginer un monde de salut, où l'homme se sauve lui-même, et de créer une religion sans Dieu, la spéculation brahmanique a déjà préparé le terrain pour cette tentative. La notion de divinité a reculé pas à pas. Les figures des anciens dieux s'effacent pâtissantes. Le Brahma trône dans son éternelle quiétude, très haut au-dessus du monde terrestre. Et il ne reste plus qu'une seule personne à prendre une part active à la grande œuvre de la délivrance, c'est l'homme. Voilà donc une portion considérable de l'évolution religieuse qui a consisté, en somme, dans un recul progressif de l'idée d'être spirituel et de divinité. Voilà de grandes religions où les invocations, les propitiations, les sacrifices, les prières proprement dites sont bien loin de tenir une place prépondérante et qui, par conséquent, ne présentent pas le signe distinctif auquel on prétend reconnaître les manifestations proprement religieuses. Mais même à l'intérieur des religions déistes, on trouve un grand nombre de rites qui sont complètement indépendants de toute idée de Dieu ou d'être spirituel. Il y a d'abord une multitude d'interdits. La Bible, par exemple, ordonne à la femme de vivre isolée chaque mois pendant une période déterminée. Elle l'oblige à un isolement analogue pendant l'accouchement. Elle défend d'atteler ensemble l'âne et le cheval, de porter un vêtement où le chanvre serait mêlé au lin, sans qu'il soit possible de voir quel rôle la croyance en Yahvé peut avoir joué dans ces interdictions, car il est absent de toutes les relations qui sont ainsi prohibées et ne saurait être intéressé par elles. On en peut dire autant de la plupart des interdictions alimentaires, et ces prohibitions ne sont pas particulières aux Hébreux, mais sous des formes diverses, on les retrouve avec le même caractère dans d'innombrables religions. Il est vrai que ces rites sont purement négatifs, mais ils ne laissent pas d'être religieux. De plus, il en est d'autres qui réclament du fidèle des prestations actives et positives, et qui pourtant sont de même nature. Ils agissent par eux-mêmes, sans que leur efficacité dépende d'aucun pouvoir divin. Ils suscitent mécaniquement les effets qui sont leur raison d'être. Ils ne consistent ni en prière, ni en offrande adressée à un être à la bonne volonté duquel le résultat attendu est subordonné, mais ce résultat est obtenu par le jeu automatique de l'opération rituelle. Tel est le cas notamment du sacrifice dans la religion védique. Le sacrifice, dit M. Bergagne, exerce une influence directe sur les phénomènes célestes. Il est tout-puissant par lui-même et sans aucune influence divine. C'est lui, par exemple, qui brisa les portes de la caverne où étaient enfermées les aurores et qui fit jaillir la lumière du jour. De même, ce sont des hymnes appropriés qui, par une action directe, ont fait couler sur la terre les eaux du ciel, et cela malgré les dieux. La pratique de certaines austérités a la même efficacité. Il y a plus. Le sacrifice est si bien le principe par excellence qu'on lui rapporte non seulement l'origine des hommes, mais encore celle des dieux. Une telle conception peut, à bon droit, paraître étrange. Elle s'explique cependant comme une des dernières conséquences de l'idée de la toute-puissance du sacrifice. Aussi, dans toute la première partie du travail de M. Bergagne, n'est-il question que de sacrifices où les divinités ne jouent aucun rôle. Le fait n'est pas spécial à la religion védique. Il est, au contraire, d'une très grande généralité. Dans tout culte, il y a des pratiques qui agissent par elles-mêmes, par une vertu qui leur est propre, et sans qu'aucun dieu s'intercale entre l'individu qui exécute le rite et le but poursuivi. Quand, à la fête dite des tabernacles, le juif remuait l'air en agitant des branches de saule, suivant un certain rythme, c'était pour provoquer le vent à se lever et la pluie à tomber, et l'on croyait que le phénomène désiré résultait automatiquement du rite, pourvu que celui-ci ait été correctement accompli. C'est là, d'ailleurs, ce qui explique l'importance primordiale attachée par presque tous les cultes à la partie matérielle des cérémonies. Ce formalisme religieux, forme première très vraisemblablement du formalisme juridique, vient de ce que la formule à prononcer, les mouvements à exécuter, ayant en eux-mêmes la source de leur efficacité, la perdraient s'ils n'étaient pas exactement conformes au type consacré par le succès. Ainsi, il y a des rites sans Dieu, et même il y a des rites d'où dérivent des dieux. Toutes les vertus religieuses n'émanent pas de personnalité divine, et il y a des relations culturelles qui ont un autre objet que d'unir l'homme à une divinité. La religion déborde donc l'idée de Dieu ou d'esprit, et par conséquent ne peut se définir exclusivement en fonction de cette dernière.